Le journal est présenté par Lucas Caltritti.
Bonsoir. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo demain aura-t-elle lieu? C'est la question. Ce soir, les deux candidats de l'opposition ont refusé de signer un acte pour la paix. Ce scrutin a déjà été reporté plusieurs fois. Le premier budget de l'exécutif populiste en Italie est voté ce soir par les députés. Il devrait être finalement adopté après de longs mois de travail pour le gouvernement. Nous sommes à 3 mois, jour pour jour, de l'entrée en vigueur du Brexit. Dans 90 jours, l'Angleterre devrait ne plus faire partie de l'Europe. Mais l'accord qu'a obtenu la Première ministre n'est toujours pas accepté par le Parlement. Enfin, nous évoquerons en fin de ce journal l'acte 7 des Gilets jaunes. Les manifestants ont effectué un tour des médias pour protester contre leur couverture du mouvement. Nous sommes allés dans le cortège parisien cet après-midi. Les deux principaux candidats de l'opposition congolaise ont refusé de signer un acte pour la paix. Ce texte est supposé prévenir les violences post-électorales. Leurs rivales de la majorité ainsi que la commission électorale ont eux accepté de le signer. Les deux opposants estiment que leurs amendements n'ont pas été pris en compte. L'élection en République démocratique du Congo doit se tenir demain. Le climat est tendu. La police a prévenu qu'elle éloignerait toute personne qui resterait à proximité des centres et des bureaux de vote demain soir après leur fermeture. La RDC retient son souffle, Anthony Fouchard.
Les élections auront-elles lieu demain? À ce stade, la question est encore sur toutes les lèvres ici au Congo. Il faut dire qu'elles ont déjà été repoussées 3 fois et que le matériel électoral n'était toujours pas entièrement installé dans la capitale cet après-midi. De quoi rendre les électeurs dubitatifs.
On a peur parce que l'élection, c'est pas vraiment transparent. On ne sait jamais si demain il y aura l'élection ou pas. S'il n'y aura pas l'élection, ça va s'éclater vraiment. Et c'est ça vraiment, ça nous fait peur vraiment.
Depuis hier, la commission électorale, la CENI, tente de faire signer un accord aux différents candidats pour qu'ils s'engagent à reconnaître le résultat des élections. Martin Fayoulou, le principal opposant, s'insurge et n'a toujours pas signé.
Accepter le résultat des urnes, ça veut dire quoi? Il faut que le résultat soit conforme à la justice et à la vérité. Donc si la CENI s'organise à proclamer un candidat qui n'est pas le candidat du peuple, je crois que la CENI va porter cette responsabilité.
Selon plusieurs sources, moins de 70% du matériel électoral aurait été effectivement distribué et plus d'1 million d'électeurs ne voteront pas dans les zones touchées par Ebola et par l'insécurité.
Les précisions d'Anthony Fouchard. En Italie, les députés votent ce soir la confiance au gouvernement et le budget de l'an prochain. Scrutin loin d'être anodin, il se déroule dans une ambiance électrique. Ce budget est le premier de l'exécutif populiste en Italie et il s'est fait dans la douleur. Le gouvernement engage sa responsabilité sur ce texte et doit impérativement le faire voter dans les temps impartis par la Constitution, c'est-à-dire avant lundi soir. Entre bras de fer avec la Commission européenne, désaccord au sein de la majorité et critique de l'opposition, l'exécutif Ligue Mouvement 5 étoiles a eu fort à faire à Rome, Xavier Sartre.
Le bras de fer avec la Commission européenne aura fait perdre plusieurs semaines au gouvernement de Giuseppe Conte. Du coup, pour maintenir l'essentiel des mesures phares de la coalition, la réforme des retraites devant permettre à certains Italiens de partir plus tôt à la retraite et le revenu de citoyenneté, l'exécutif a dû amender son premier projet, sans laisser vraiment le temps aux sénateurs d'examiner la nouvelle copie la semaine dernière. Les députés auront eu, eux, plus de temps, mais pour éviter d'en perdre trop à tout regarder à la loupe, ils n'approuveront le texte ce soir que via un vote de confiance sorti de 49-3 à l'italienne. Le retard est dû aussi au débat interne parfois confus et houleux entre partenaires de la majorité. L'un des points les plus délicats a été l'amnistie fiscale voulue par la Ligue, rejetée par les 5 étoiles, ajoutée au dernier moment, rejetée puis acceptée mais sous condition. Un feuilleton politique qui a démontré que la coalition était plus en état de cohabitation que de collaboration. Au final, le déficit italien devrait s'établir à 2,04% du PIB au lieu des 2,4% initialement prévus et les prévisions de croissance pour 2019 revu à la baisse, 1% au lieu de 1,5%. Mais l'essentiel est là pour la coalition. Le budget du peuple, comme il a été défini par les 5 étoiles, devrait être adopté, quitte à engager donc la responsabilité du gouvernement. Signe de faiblesse.
La correspondance de Xavier Sartre à Rome. 4 terroristes présumés arrêtés aux Pays-Bas. Ils sont soupçonnés par les unités antiterroristes néerlandaises d'être impliqués dans la préparation d'un acte terroriste. La police n'a pas donné pour le moment plus de détails sur le profil des suspects ou l'attaque terroristes qu'ils sont soupçonnés d'organiser. Après la France, l'Autriche va introduire une taxe GAFA. Les GAFA, ce sont les géants du numérique, les Google, Apple, Facebook, Amazon. La France a donc déjà annoncé qu'à compter du 1er janvier, c'est-à-dire mardi, ils seront taxés. L'Autriche pourrait donc suivre, c'est ce qu'annonce le chancelier autrichien Sébastien Kurz. Explique l'objectif, taxer des entreprises qui engrangent des revenus colossaux en ligne sur lesquels elles ne paient pratiquement aucun impôt. Le Brexit devrait avoir lieu dans exactement 3 mois, la date officielle de sortie du Royaume-Uni. La date de sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne est fixée pour le 29 mars 2019. À 90 jours de l'échéance, rien n'a pour l'instant été officialisé, malgré des mois de négociations entre les deux parties. La première ministre britannique Theresa May ne parvient pas à faire accepter l'accord qu'elle a conclu avec Bruxelles au Parlement. À Londres, les explications de Marina Daras.
À seulement 3 mois de la sortie officielle, Theresa May continue de jouer la montre. Le chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, a réitéré sa demande hier pour que les députés reviennent plus tôt que prévu de vacances et que le débat parlementaire sur l'accord de sortie puisse enfin avoir lieu. Mais Theresa May reste impassible devant les demandes insistantes des travaillistes que Downing Street qualifie de ridicules. Après avoir annulé le premier vote qui devait avoir lieu le 11 décembre dernier, elle a décidé de repousser le débat parlementaire à la semaine du 7 janvier et le vote de la Chambre des communes à la semaine suivante. Pour les députés pro-européens, tous partis politiques confondus, il s'agit d'une manœuvre pour les forcer à accepter malgré eux cet accord, par peur de manque de temps et d'alternatives. Depuis quelques jours, un groupe de députés tente de son côté de faire pression sur le gouvernement pour obtenir un droit de veto sur les accords commerciaux que les ministres pourront commencer à négocier dès le 30 mars prochain. La Commission sur le commerce international a déclaré que les députés devraient avoir un rôle significatif dans la ratification de ces accords avec un examen minutieux des dossiers à un stade précoce ainsi qu'un vote final décisif. Ces accords ne devraient pas être mis en œuvre avant 2021, date prévue de la fin de la période de transition entre l'UE et le Royaume-Uni, mais le gouvernement n'est pas obligé de consulter le Parlement ni de lui donner un droit de veto sur les traités qu'il signe et pourrait décider de sauter l'étape parlementaire.
Marina Daras depuis Londres. La Russie et la Turquie d'accord pour se coordonner après le retrait américain en Syrie. Ils partagent un même objectif, éradiquer la menace terroriste du pays. Ces pourparlers interviennent alors que nous apprenions hier que l'armée de Bachar al-Assad est entrée dans une région du nord de la Syrie en réponse à un appel à l'aide des forces kurdes. 900 gilets jaunes à Marseille, 2000 à Metz, 1500 à Caen. D'autres rassemblements ont eu lieu à Marseille, Lyon, Toulouse ou encore Bordeaux. L'acte 7 de la mobilisation se passe dans un calme relatif en dehors de Paris, à l'exception de Rouen. Notamment, la manifestation a dégénéré, la porte des locaux de la Banque de France a été enflammée. Dans la capitale, ce que les gilets jaunes appellent un tour des médias a été organisé. Des centaines de manifestants se sont rassemblés à la mi-journée au pied du siège de la chaîne BFM TV. Ils ont ensuite pris la direction de France Télévisions. Gaël Joly était dans le cortège parisien cet après-midi.
Au rythme de ce slogan « Journalistes collabos », les centaines de gilets jaunes réunis dans le quartier ont fait le tour des médias, BFM TV, France Télévisions, Europe 1 et Radio France, des manifestants très hostiles à la presse en général.
En fait, il y a une propagande tellement énorme qu'on est à bout de nerfs, quoi.
Je retrouve toutes les traces de l'URSS. Aujourd'hui, la plupart des infos en continu diffusent des informations dignes de la Pravda en URSS.
À l'acte 6, quand on était plus de 15 000 sur les Champs-Élysées et que BFM annonçait 1500 personnes. Tous les week-ends, vous regardez BFM, c'est de la désinformation.
Libérez l'information !
Une manifestation autorisée mais sous très étroite surveillance policière. Sylvain Baron, l'organisateur de ce tour des médias, dénonce une véritable rupture entre les journalistes et la population.
Je dirais que les médias publics sont malheureusement pires que le privé. Soit on a de l'autocensure, soit on a des éditocrates qui donnent la ligne, on va dire, soit on a des administratifs qui sont aussi là pour garder la ligne d'une certaine façon. Et les journalistes, je pense qu'en fait, souvent, même quand ils auraient envie de se lâcher, finalement se disent « ça va pas passer, donc je cherche même pas à aborder le sujet, sinon ça passera pas ». Donc c'est ça l'autocensure.
Les gilets jaunes ont ensuite pris la direction du Trocadéro pour rejoindre d'autres manifestants.
Un reportage de Gaël Joly. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire à l'encontre d'Alexandre Benalla pour la non-restitution de ses 2 passeports diplomatiques. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron est soupçonné de les avoir utilisés après avoir quitté ses fonctions à l'Élysée. L'entourage de M. Benalla a affirmé que ses passeports lui avaient été restitués début octobre, déjà au cœur de plusieurs enquêtes concernant notamment des violences lors des manifestations du 1er mai quand il était en poste à l'Élysée. Alexandre Benalla a utilisé ces dernières semaines ses passeports pour aller rencontrer des dirigeants en Afrique, selon Mediapart et Le Monde. Enfin, pour terminer ce journal, levons nos yeux vers le ciel. Il sera très nuageux ce soir sur l'ensemble du pays avec des températures qui vont de -1 à Limoges à 10 degrés à Cherbourg. C'est la fin de ce journal, il a été préparé avec Chloé Leblond.